Il y a trois ce que l'on appelle les caractéristiques de l'existence. Et c'est ça que j'aimerais vous proposer comme réflexion ce soir. La première, c'est ce qu'on appelle dukkha, c'est-à-dire la souffrance. C'est la première vérité. La vie sur cette terre n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite à l'intérieur. Elle n'est pas parfaite au niveau relationnel. Elle n'est pas parfaite dans le monde. Il y a le jour et la nuit. Et il y a le jour et la nuit de l'âme. Et il y a le jour et la nuit des civilisations. Et il y a le jour et la nuit. Tout change. Dukkha. Le deuxième, anicca, c'est justement que tout change. C'est plutôt là que je devrais parler du jour et de la nuit. Et le fait que les choses changent, qu'elles soient impermanentes, c'est ce que nous pouvons expérimenter dans l'exercice de la méditation. Parce que le moi aimerait tellement que ce soit pas comme ça. Le moi aimerait tellement que je puisse avoir le bonheur une fois pour toutes. Et quand je pratique, je me rends compte que ça n'est pas comme ça. Et le dernier aspect, anatta, c'est la possibilité pour un corps et un esprit humain d'être au-delà de cette souffrance du monde qui est imparfait et qui est changement. Il y a quelque chose qui fait que je peux trouver en moi l'arrêt du cycle perpétuel du samsara, du cycle perpétuel de la vie et de la mort, en général, mais aussi au niveau de l'instant, de cet attachement à la vie et à la mort de l'instant. Et lorsque nous apprenons à sentir ces aspects en nous-mêmes, alors ce qui est beau, c'est que nous n'avons plus tellement besoin que ma vie ait un sens, mais nous commençons à vraiment sentir que le sens est dans la vie. Le sens est, parce que cette exploration de la libération, c'est quelque chose qui est tellement vivant, tellement plein, tellement... Le corps et l'esprit deviennent vraiment à leur place pour faire ce travail-là. Et après, tout ce que nous faisons, accessoirement, notre travail, notre famille, notre maison, nos voyages, notre culture, nos activités artistiques, ok, elles sont là, mais le centre, le cœur n'est pas là. Et alors, cette manière de lâcher prise du sens que je veux que ma vie ait, pour venir dans quelque chose où, au fond, je ne sais pas, mais je sens ce sens de la vie. C'est ce qui crée la confiance, la sérénité et l'abandon. C'est ce qui crée cette capacité de pouvoir vivre l'instant pleinement, qui soit vraiment assez. La vie devient tellement simple, mais aussi tellement pleine. Parce que ce moi inquiet, avide, petit, lâche, quoi. Et dans cette exploration du qui suis-je, ce que nous voyons, c'est qu'effectivement, l'instant n'est pas toujours douloureux, heureusement. Quelquefois, il est très, très bon. Mais si la conscience n'est pas cultivée, l'instant est toujours douloureux en potentiel. Sitôt que les conditions changent, et ça peut être extrêmement puissant. Et le moi peut être mené en enfer. Par notre ignorance, par rien d'autre que notre ignorance. Et la vraie souffrance, ce n'est pas la douleur physique ou psychique, ce n'est pas la solitude, le stress, l'angoisse, le jugement, la culpabilité. Non. La vraie souffrance, c'est avidya, cette résistance, ce contrôle, cette mauvaise volonté, cette exigence qui fait que je ne peux pas me lier aux choses, au réel tel qu'il est. Et il y a trois aspects à la souffrance. Le premier, c'est la douleur physique ou psychique, dans l'instant. Non pas ce que j'en pense, mais dans l'instant, quand ça émerge. C'est le réel des fois. Il y a des moments d'angoisse, ou en tout cas d'inquiétude. Il y a des moments de colère, de ressentiment, de jugement. Il y a des moments de frustration, de peur de ne pas être à sa place, de ne pas faire assez, des moments de dévalorisation. Ça, c'est la douleur psychique et il y a la douleur physique que nous expérimentons parfois dans l'exercice de la méditation. Et puis, il y a la souffrance des limites du corps et de l'esprit. Quelquefois, je me dis que si j'avais les qualités de toutes les personnes qui sont dans cette salle, vous vous rendez compte, je serais un génie. Nous sommes limités. Nous avons nos zones de compétence et nos zones de manque, quoi, d'aveuglement. Nous avons des endroits dans nos vies, des schémas qui sont répétitifs et qui ne sont pas forcément satisfaisants, mais ils ne lâchent pas, hein. Et peut-être qu'ils n'ont pas à lâcher dans cette vie. Il n'y a pas de problème à avoir ces schémas. Il faut les reconnaître. Humblement accepté, ok. Ah, voilà de nouveau mon petit aveuglement qui émerge. Ah, voilà que j'ai nouveau dit ça. Oh, waouh! C'est pas franchement ce que j'avais envie de dire, hein? Mais ça y est, c'est lâché. Et c'est douloureux de sentir ses limites parce que, au fond, ça n'est pas ce que nous sommes. Et nous sentons bien ce que nous sommes. Le Bouddha a parlé de ses limites comme étant liées à ce qu'on appelle les cinq aspects que nous pouvons voir dans l'expérience, comment l'expérience se crée. Je l'ai déjà dit souvent, mais c'est important de le redire parce que nous le comprenons toujours à un niveau différent. Contact, juste maintenant, pour chacun d'entre nous, il y a un contact, mais parole crée un contact. Votre corps assis crée un contact. Quand il a mal, hop, je le bouge. Ce contact est lié à un ressenti et à une perception, c'est-à-dire que nous vivons le contact, qu'il soit auditif ou on n'est pas sensationnel, mais enfin vous comprenez. On l'interprète à la lumière de notre personnalité. Les paroles que je dis sont reçues différemment par chacun d'entre vous. C'est génial, hein, quand même, comme cette complexité de la nature humaine. Et puis, donc il y a contact, perception et ressenti, ou ressenti et perception, ça va presque ensemble. Et à partir de là, nous construisons. Je suis en train de construire. Et je construis sur ma propre subjectivité, en lien à mon histoire. Et il y a la conscience, c'est le cinquième aspect. Et il faut qu'il y ait ces cinq choses pour qu'il y ait une expérience. Pas d'expérience autrement. Et puis le dernier aspect, c'est de la souffrance, c'est le manque qui est lié aux limites. Et c'est beau quand on parle du dharma, parce que nous sommes tous en manque du un. En tombant dans le samsara qui est par définition dualité, nous sommes tous en manque. C'est très, très net chez les petits-enfants. Comment le petit-enfant est « Ah, cette ouverture !» Et puis, on voit très bien quand l'enfant grandit, il devient une personnalité. Alors c'est beau, il grandit aussi pour tout ce qu'il peut offrir au monde. Mais au niveau de cette universalité de la conscience, il y a nettement une perte. C'est pour ça que l'enfant peut s'attacher à n'importe qui. Parce qu'il est dans le tout. Et puis, l'aspect de l'impermanence que nous vivons beaucoup dans l'exercice de la méditation à tous les niveaux, c'est tellement important de le reconnaître encore et encore. Parce que quand je me lie à l'impermanence, je décolle le processus mental. Si j'accepte que ça change et que je m'intéresse au changement, je ne vais pas passer mon temps à évaluer les choses pour essayer de les avoir OK. Donc je vais pouvoir dégager peu à peu la conscience du mental. Et je vais peu à peu comprendre, grâce à l'impermanence, que l'important, ça n'est pas ce que je vis, puisque de toute façon, ça change. Je n'ai aucun contrôle. Mais c'est comment je le vis. Et ce n'est pas une petite chose à faire. C'est OK de l'entendre, mais ce n'est pas une petite chose à faire. Nous sommes pris dans cette prison du temps, du devenir, de la perfection, et nous croyons tout à coup au monde, qu'il soit intérieur ou extérieur. Il est réel, ça ne veut pas dire qu'il soit vrai. Je prends toujours cet exemple, je le prends un peu trop souvent, ça fait rien. Si nous vivions il y a 1000 ans, les gens étaient comme nous il y a 1000 ans, ils avaient une tête, un cœur, un corps, une intelligence, il y avait des gens géniaux. Eh bien, ils croyaient tous que la Terre était plate. C'est quand même dingue. Et nous, on croit tous qu'elle est ronde. C'est quand même dingue. Je vous lis un petit proverbe zen pour montrer cette réalité de l'au-delà de l'impermanence. Au moment de quitter le monastère, le jeune novice joint ses mains à hauteur de front et s'incline 3 fois devant son maître. Tokutan, lui dit celui-ci, n'oublie pas d'être heureux. « Ô maître, répond Tokutan, éperdu de reconnaissance, vous êtes trop bon. Je ne suis au monastère que depuis peu de temps. Parfois c'est dur, j'ai à vivre des... » Tokutan, l'interrompt le maître, « je ne formule pas un souhait. Je te donne une instruction. » « Ah bon ?» fait le novice, désemparé. « Soit je me lie à ce que je vis, soit je me lie à comment je le vis. » Et si je peux être dans cette conscience accueillante de l'instant tel qu'il est, le bonheur ne peut plus m'être enlevé. Mais ce n'est pas le bonheur que je connais. Ce n'est pas le bonheur du moi qui a ce qu'il veut. C'est au contraire le bonheur d'une conscience qui peut tout recevoir. Et ça, c'est anatta, c'est le dernier aspect dont le Bouddha à parler. Et lorsque nous avons conscience de l'impermanence, peu à peu le mental arrête de se vivre, ou plutôt l'esprit arrête de se vivre uniquement au niveau mental. Je sors de ce que je pense de moi, de ce que je pense de l'autre. L'autre, c'est l'autre, quoi. Et quelquefois, c'est ok que l'autre soit l'autre. Il n'y a pas cette espèce de désir de le changer. Et la même chose avec moi. Des fois, j'ai tellement envie de me changer parce qu'il y a comme un truc où ce ne sera pas parfaitement ok. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Pour la pleine conscience qui est en état de, comment dire, de marche et qui accueille l'expérience dans l'instant, il n'y a rien à changer. Et si je ne change rien, la transformation se passe. Parce que je continue à me souvenir. Nous oublions trop souvent. Et de chercher le bonheur seulement dans le monde qu'on appelle conditionné, d'une certaine manière, c'est une grande souffrance. Ça réduit les compétences de la nature humaine à peu de choses. C'est une quête perpétuelle, parce que nous allons continuer à chercher le bonheur dans l'expérience, dans la qualité de l'expérience. Nous aimons ce qui fait plaisir, ce qui est bon. Pas seulement au niveau gustatif, auditif, mais aussi au niveau spirituel ou interrelationnel. Mais aussi au niveau spirituel. Nous aimons une expérience qui nous fait du bien. Et c'est ok, nous n'avons pas à ne pas l'aimer. Mais nous ne pouvons pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et nous pouvons voir, ok, moi j'aime cette expérience. Je m'arrange pour la vivre. Mais en fait, c'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est quelque chose de plus grand. Donc, le chemin du milieu, c'est cette qualité de la conscience qui accepte le moi là où il en est, avec, je dirais, ses petits désirs, mais qui n'oublie pas que son but ultime, c'est le grand désir de l'éveil. Et lorsque nous arrêtons de croire que nous allons trouver le bonheur dans nos petits désirs, lorsque nous vivons nos petits désirs, quand ils sont là, nous ne pouvons pas prétendre, il ne s'agit pas de prétendre, mais qu'il y a cette sagesse de ne pas croire que ça va m'apporter tout ce à quoi j'aspire. Alors la confiance s'installe, parce que la confiance, c'est un abandon du moi qui veut autre chose que ce qui est. Il n'y a pas d'autre confiance. J'ai confiance en toi. Des fois, on est bien surpris. Et de toute manière, l'autre peut mourir. C'est Chouraki, c'était beau quand Chouraki disait « En fait, je ne t'aime pas toi. Si je t'aimais toi, j'aimerais quelque chose de tout petit puisque tu peux mourir. J'aime en toi. » J'aime en toi. C'est l'amour qui est important. Et l'amour, c'est du non-moi. C'est quelque chose qui est gratuite. Donc, nous pouvons sortir peu à peu grâce à l'expérience ici et maintenant, parce que je valorise le corps ici et maintenant, l'agréable, désagréable et neutre, parce que je vois ces pensées qui émergent sans cesse, tranquillement, sans les juger. La conscience se développe, et quand la conscience se développe, la peur diminue. Et nous arrêtons de vivre petit. Vivre petit, c'est mettre moi en priorité, tant pis pour l'autre. C'est terrible la souffrance, en fait. Et nous sommes dans un monde où tout nous pousse à faire ça. Nous sommes dans un monde de l'usure. Au Moyen-Âge, l'usure, c'était un péché mortel. Le capitalisme, c'est de l'usure pure. C'est dingue, quand même. Puis il n'y a personne qui semble pouvoir renverser ça. Il faut croire qu'on doit passer là. Le monde est tout petit et la conscience est grande. Mais à cause de l'ignorance, nous donnons énormément d'importance au monde et tellement peu d'importance à la conscience. C'est Ajahn Chah qui dit, si tu prends les choses très personnellement, tu vas avoir beaucoup de souffrance. Si tu prends les choses un peu personnellement, tu en auras un peu. Si tu ne prends pas les choses personnellement, il n'y a plus de souffrance. Donc nous sommes là pour explorer comment être ici et maintenant, avec l'expérience, sans croire que nous sommes l'expérience. Ça demande de la concentration. Chaque fois que nous marchons, si nous pouvons établir la concentration, c'est un petit coup de pouce pour que la conscience devienne de plus en plus sage. Au début, la conscience, c'est facile d'être là, mais d'être là vraiment avec sagesse. C'est ça qui se développe. Je vais finir avec une parole d'Ajahn Chah encore. Celui qui sait, c'est-à-dire celui qui est là avec l'expérience, hein, c'est pas une connaissance intellectuelle. Celui qui sait reconnaît clairement que tous les phénomènes sont insubstantiels. Ainsi, celui qui sait ne devient pas triste ou joyeux, parce qu'il ne suit pas les conditions qui changent. Devenir joyeux, c'est naître. Devenir triste, c'est mourir. Étant mort, nous naissons à nouveau. Et étant nés, nous mourrons encore. La naissance est la mort de chaque instant. C'est la roue sans fin du samsara. Et il ne s'agit pas de nier la roue, il s'agit de la connaître pour voir qu'en fait, je suis au-delà. Qu'en fait, j'appartiens à autre chose. Le Christ dit, je vous ai mis dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et chaque fois que je suis là, ici et maintenant, j'appartiens à cet universel. C'est tellement beau. Et c'est possible, tout le temps. C'est tout le temps possible. Alors, je nous enjoins de beaucoup le faire.